les podcasts sciences humaines de Radio qui pique. Rencontres, conférences, débats, tables rondes, entretiens, les problématiques de société avec les chercheurs, invités en Ariège. Sciences sociales, histoire, géographie, psychologie, philosophie, sciences politiques, économie, sciences du langage, écologie. De quoi se poser les bonnes questions et mener les bonnes réflexions. Sur Radio qui pique. 20 juin 2024, Centre culturel L'Estive à Foix. Rencontre avec le sociologue Bernard Lahire autour de son livre « Les structures fondamentales des sociétés humaines » paru aux éditions de La Découverte. Une rencontre organisée par la librairie Le Cachalot. Voici le texte de la quatrième de couverture du livre. Et si les sociétés humaines étaient structurées par quelques grandes propriétés de l'espèce et gouvernées par des lois générales? Et si leur trajectoire historique pouvait mieux se comprendre en les réinscrivant dans une longue histoire évolutive? En comparant les sociétés humaines à d'autres sociétés animales et en dégageant les propriétés centrales de l'espèce, parmi lesquelles figure en bonne place la longue et totale dépendance de l'enfant humain à l'égard des adultes et la partition sexuée, ce sont quelques grandes énigmes anthropologiques qui se résolvent. Pourquoi les sociétés humaines, à la différence des sociétés animales non humaines, ont-ils une histoire et une capacité d'accumulation culturelle? Pourquoi la division du travail, les faits de domination, et notamment ceux de domination masculine, ou les phénomènes magico-religieux, se manifestent-ils dans toutes les sociétés humaines connues? Pourquoi l'ethnocentrisme est si universel et pourquoi des conflits opposent-ils régulièrement des groupes qui s'excluent mutuellement? C'est à ces questions cruciales que cherche à répondre Bernard Lahire en formulant, pour les sciences sociales, un paradigme unificateur fondé sur une synthèse des connaissances essentielles relatives à la vie sociale humaine et non humaine accumulées dans des domaines du savoir aussi différents que la biologie évolutive, l'éthologie, et l'écologie comportementale, la paléoanthropologie, la préhistoire, l'anthropologie, l'histoire et la sociologie. Le pari de ce livre est que seul cet effort d'intégration permet de comprendre la trajectoire des sociétés humaines par-delà leur diversité et d'augmenter la maîtrise qu'elles peuvent avoir de leur destin incertain.
Allez, c'est parti. Alors, Bernard, je vais te laisser... juste peut-être présenter succinctement, présenter ses activités, parce que tout le monde ici n'est peut-être pas lecteur ou lectrice de sociologie, donc est-ce que tu peux juste te présenter dans les grandes lignes? Et puis, on pose tout le temps la même question, est-ce que tu peux donner un petit peu le point de départ à l'écriture du livre?
Oui. Alors, c'est pas si facile que ça, en fait, hein, pour parler de la jeunesse du bouquin, mais je suis sociologue, hein, et je travaille. ça va, quand même. Je travaille beaucoup. Alors, à l'origine de l'ouvrage, il y a plein de frustrations, j'en parle dans les premières pages du bouquin, pour dire que, au fond, c'est monté progressivement au cours de ma carrière, qui n'est pas terminée, je le précise. C'est l'idée qu'on patine un peu dans les sciences sociales. Peut-être que certains d'entre vous le savent, on est des sciences souvent attaquées, on est parce que jugées trop politiques, parce qu'on soulève des trucs que personne ne veut voir, ou très peu de gens, en fait. En tout cas, que les pouvoirs ne veulent pas voir, d'inégalité, de domination, tout ça. Mais en dehors de tout ça, qui est le quotidien des chercheurs en sciences sociales, on n'oserait pas dire à un physicien, ouais, je ne suis pas d'accord avec ton histoire de planète, là. Mais le premier venu peut vous dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi, sociologue, sur tel ou tel point, alors qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant 30 ans sur un sujet, ils connaissent ça par cœur, mais il y a quand même des gens politiques ou pas politiques qui viennent et qui. On ne ferait pas ça à un physicien, à un mathématicien, à un biologiste, etc. Ceci dit, nous avons aussi notre part de responsabilité. Et ce bouquin, il parle de ça. Nous n'avons pas su collectivement, on va dire, constituer un certain nombre d'acquis de nos sciences, Et quand je dis nos sciences, c'est vraiment histoire, anthropologie, sociologie, sciences politiques, tout ce que vous voulez qui voulait être les sciences sociales. Pour moi, une partie de la linguistique est clairement dans les sciences sociales, la démographie, l'économie, la géographie, et ainsi de suite. Donc on n'a pas su montrer qu'on avait de la cumulativité scientifique. C'est un gros mot, vous pouvez dire simplement qu'on avance. À peu près tous les biologistes sont capables, si vous leur demandez ce qu'on a appris depuis Darwin, ils vont vous le raconter. Vous posez la question à un sociologue, qu'est-ce qu'on a appris depuis Durkheim ? Là, il vous dit, pourquoi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu m'en veux ? Il y a une parano incroyable, alors que ça devrait être normal de pouvoir répondre à la question, qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a mis en évidence ? Alors, non seulement on n'a pas réussi à le faire, mais en plus, la plupart des collègues pensent qu'on ne peut pas y arriver. Alors, comme disait Norbert Elias, qui est un grand sociologue allemand qui a enseigné et travaillé en Angleterre, parce qu'il était juif, et qu'il a dû partir d'Allemagne, sous une petite notation comme ça, anecdotique. Elias disait, quand on pense qu'il n'y a rien à découvrir, on ne découvre jamais rien. Ça paraît être un truc un peu évident, mais c'est exactement ce qui se passe dans les sciences sociales. Les gens sont persuadés qu'il n'y a rien à découvrir de particulier. Et donc, ils alignent les travaux qui peuvent être très, très bien menés, très fidèles à la réalité décrite, etc. Mais on passe de... j'ai un collègue un peu dur qui dit on est dans une science des anecdotes. C'est effectivement un peu dur, mais au fond, il y a de ça. Et déjà, Durkheim disait ça en parlant aux historiens. Je ne vais pas faire de la guerre entre les sciences sociales, mais les historiens ont toujours dit, on raconte l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, dans telle société, on peut analyser. Bon. Mais, il faut que je m'arrête en fait, je commence à être trop long. Mais il faudrait dégager des choses plus générales. Et il y a un gros mot qui est considéré comme tel par les sciences sociales, c'est des lois. La biologie a des lois, les physiciens ont des lois, et nous, quand vous dites « je vais dégager des lois », tout le monde ricane. Donc c'est un peu dans cette ambiance-là, hyper sympa et hyper enthousiasmante du point de vue de l'avancée des sciences sociales. Alors moi, bêtement, je crois au progrès, mais vraiment très naïvement. Je crois qu'on peut avancer, je pense qu'on a avancé, mais que... si on ne fait pas l'effort de le formuler, effectivement, on patine et on recommence toujours à zéro. C'est l'origine de l'ouvrage. Mais après, il y a tellement de choses dedans que, évidemment, ça ne vous dit pas grand-chose de ce qu'il y a dans l'ouvrage. C'est vraiment le... C'est le préquel.
Alors, du coup, en fait, ce livre, il commence par une partie... par 300 pages, à peu près, d'épistémologie. Épistémologie, bon, gros mot de philosophie pour dire qu'on s'intéresse au champ de la connaissance scientifique. Qu'est-ce que la connaissance scientifique ? Comment produit-on de la connaissance ? Donc, pourquoi cette partie, elle est importante et pourquoi il faut lui donner sa place maintenant ? C'est que on passe à côté du projet, ton projet dans ce livre, si on n'approfondit pas vraiment cette partie. Donc effectivement, tu l'as dit, ce livre commence par un état des lieux et une critique de ce qu'on appelle en librairie, sinon c'est un peu long, les sciences humaines et sociales, nous on dit SHS, sciences humaines et sociales, tu as rappelé les disciplines. Donc je jette comme ça quelques traits, tu parles d'une grande dispersion des travaux, sur spécialisation des chercheurs, parle de chapelle théorique, moi tout de suite j'ai un peu l'expression qui me vient, guerre de clocher entre les chercheurs. Ça c'est vrai que c'est intéressant, on pourra peut-être en reparler, qu'il y a une application peut-être très contemporaine à visée politique des sciences humaines et sociales. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont quand même beaucoup mobilisées aussi par les champs politiques et militants, qui prend la place. Difficulté à produire des concepts idées atypiques, des concepts, obsession de la particularité, tu l'as dit, de la variation. Donc on va au plus loin dans le détail, dans dans la variation. Et en fait, ça s'est couplé. Moi, j'ai aimé cette formule dans la première partie de ton livre. Tu dis, bah, en fait, on arrive à un espèce de relativisme extrême où on a l'impression que finalement, bah, il y aurait autant de réalité que de points de vue. Et donc, finalement, une espèce de dissolution totale de la réalité à travers une multiplicité de points de vue. Et peut-être que là, on peut lire un petit extrait. Moi, j'aime beaucoup lire en rencontre parce que des fois, c'est difficile de reformuler mieux ce que l'auteur il a déjà écrit. Donc, tu dis, en partant du principe que socialement, tout varie en permanence et que ce qui ne varie pas est, par définition, du côté de la biologie, on se place dans une situation délicate pour mettre en évidence régularité, loi, invariants ou mécanismes généraux qui concernent les structures du comportement ou les structures sociales. Car il n'y a de science que du général, et même quand on travaille sur des cas singuliers, c'est toujours du général à l'état replié que l'on étudie. L'amour des détails, des événements, des singularités, des particularismes conduit tout droit à la haine du général et en fin de compte à l'impossibilité de faire science. Bon, je vous lis cet extrait parce qu'il est extrêmement bien écrit, mais parce que il y a vraiment le projet, ton projet qui se dégage à ce moment-là, c'est l'idée de faire science, d'aller vers une science du général. Je ne sais pas si tu veux remonter un moment.
Ben, c'est bien écrit, je trouve. Non, mais ouais, oui, c'est un moment où j'essaie d'expliquer que. On croit trop d'abord que, par exemple, la biologie, c'est le stable. Or, j'étais en débat hier avec Étienne Danchin, en dialogue, on est d'accord à peu près sur tout, avec Étienne Danchin, qui est un biologiste évolutionniste de Toulouse, un grand biologiste. Et il m'a dit, et c'est ahurissant, parce que les sciences sociales pensent que la biologie, c'est ce qu'il y a d'invariant, alors que nous, on passe notre temps à avoir de la variabilité. Même l'idée, la notion d'espèce, Darwin a passé son temps à dire que la notion d'espèce est relative. À un moment donné, on stabilise pour dire voilà, ça c'est une espèce différente, elle n'arrive plus à se reproduire avec. Je ne sais pas si vous essayez, je vous conseille de vous reproduire avec un chimpanzé, ça ne donnera pas grand chose. Enfin, en termes de progéniture. Mais il y a la variabilité permanente, c'est même un des principes de la sélection naturelle. Donc déjà, voilà, il y a des fausses représentations de ce que c'est que la biologie qui serait l'invariant, et nous, on serait que dans la variation, hein, les variations culturelles. Alors, évidemment, ça paraît presque évident, si vous pensez au Moyen-Âge, si vous pensez à la société féodale, aux sociétés capitalistes contemporaines, aux sociétés linéagères africaines, aux sociétés de la côte nord-ouest des États-Unis, etc. C'est, vous avez des différences telles que ce qui saute aux yeux, c'est les variations. Il y a de l'histoire, il y a de la variation géographique, spatiale et temporelle. Permanente, et donc les sciences sociales se sont inclinées devant cette manifestation évidente de la variation. Sauf que même le terme de variation n'est pas le bon, en fait, parce que quand vous n'avez pas de principe invariant, c'est plus de la variation. Si vous avez de la variation, ça suppose que vous avez dégagé des invariants. La variation, c'est autour de points, d'invariants, et ça s'enroule autour. Voilà. Donc, des gens qui parlent de variation culturelle sans dégager des invariants, c'est plus de la variation, c'est de la dissémination permanente. Voilà. Donc là, il y a un problème presque logique face au problème, et on croit que ça a été simple pour la biologie. Il y a un passage que j'ai cité dans le bouquin de Darwin, qui est assez magnifique, où il décrit un talus. Il dit, voilà, vous regardez un petit talus, vous avez plein des fleurs, des plantes, etc. Vous avez des vers qui se baladent là-dedans, des abeilles, une faune et une flore incroyablement complexes dans un tout petit carré. Et il dit, bon, dans ce foisonnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui régule tout ça? Et il termine en disant, ben oui, il y a des lois qu'on peut dégager, et ce sont les lois de la sélection naturelle, il dégage trois lois, qui est la variabilité permanente du vivant, l'hérédité. Quand vous avez une progéniture, là, vous faites hériter de vos gènes, et depuis, on le sait, alors lui, il ne savait pas que c'était des gènes, hein, il savait qu'il y avait de l'hérédité. Les gènes, c'est Mendel, et au-delà. Donc il y a de l'hérédité, et depuis, on sait qu'il y a aussi des expressions épigénétiques, c'est-à-dire qu'on transmet aussi des expressions de nos gènes, qui sont bien autre chose, mais qui sont liées à des phénomènes culturels, etc. Donc c'est encore plus compliqué que ce qu'on imaginait. Et puis, il y a de la sélection par l'environnement. C'est-à-dire que si vous êtes avec vos gènes, et aujourd'hui on sait avec l'expression de vos gènes, pas en bon état pour faire face à un nouvel environnement qui se présente, hein, exemple, par hasard, aussi, un virus. Moi, ça demande un effort, hein, voilà, quand même. Si vous avez des virus, alors on a eu de la chance avec le coronavirus que ça touche plutôt des gens âgés, si je veux dire. Enfin, c'est pas rien contre les gens âgés, hein. Je veux bien, donc pas de mépris. Mais ce que je veux dire, c'est des gens qui se sont déjà reproduits. Parce que la sélection naturelle, évidemment, elle joue sur ceux qui vont mourir avant de pouvoir se reproduire. Si ça touchait les plus jeunes, le coronavirus tue les jeunes, ils ne peuvent pas se reproduire. Ceux qui arrivent, qui sont asymptomatiques et qui s'en sortent très bien, etc., eux, ils transmettent les bons gènes et ça continue, la population se resserre génétiquement autour des bons gènes. Et il faut beaucoup de morts pour arriver à ça, parce que c'est quand même une situation particulière. Mais voilà. Derrière le foisonnement d'un talus, il part de ça et dit il y a des lois très générales qui gouvernent tout ça.
Les podcasts Sciences humaines de Radio qui pique. Rencontres, conférences, débats, tables rondes, entretiens, les problématiques de société avec les chercheurs, eux, invités en Ariège.
Là, c'est un peu de la redite de ce que tu viens d'expliquer, Bernard, mais donc, du coup, dans cette ambition de faire science, ce qui nous intéresse, là, c'est d'aller chercher les principes invariants, les constantes, les fondamentaux. Donc, tu l'as dit, le mot fait un peu peur en SHS, en tout cas les chercheurs, chercheuses sont particulièrement frileuses, mais c'est le mot loi. Et donc, ça, c'est dans cette première partie d'épistémologie, c'est tu mobilises trois grands noms, beaucoup d'autres, hein, le corpus est très vaste, mais tu mobilises beaucoup Newton, Darwin, Einstein, et qui.
Un peu Marx aussi.
Un peu Marx aussi, et tous avec quand même cette. Je ne sais pas si on peut dire cette intuition, mais en tout cas, tous, à l'intérieur de leur discipline, parlaient de ça, parlaient qu'il fallait aller vers le général dans un esprit, là je te cite, dans un esprit de synthèse, de clarification, d'unification des connaissances. On a perdu une personne encore. Hein, pas bien. Et on reprend l'idée que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de cumulativité scientifique sans loi. Donc l'idée de cumulativité, elle est quand même assez simple, c'est l'idée qu'on ne fait pas table rase, on ne repart pas de zéro à chaque génération. Et donc du coup, maintenant qu'on a bien dégagé ce projet de faire science, qui dit science dit quand même méthode, il y a une vraie méthode dans ton livre, et on va en arriver à parler de la comparaison interspécifique, donc entre notre espèce, l'espèce humaine, et d'autres sociétés non humaines. Mais pour en arriver à ce que ta méthode elle a vraiment de pertinent et d'imparable à mon sens, j'ai besoin d'un tout petit détour, j'ai besoin qu'on reclarifie la distinction entre social et culturel, qui est extrêmement importante si on veut saisir après cette méthode. Vas-y Bernard.
Alors oui, c'est très important en fait cette distinction. Généralement, et les sociologues, enfin les chercheurs en sciences sociales utilisent social et culturel comme des équivalents. Ils hésitent à dire construction culturelle ou construction sociale selon les textes. Bon, donc on voit une confusion. Or, c'est très important de faire la différence. Alors, pourquoi ? Il faut repartir sur un peu de biologie évolutive et d'éthologie. On se rend compte que dans l'histoire très longue du vivant, le social est une solution. sélectionné par la sélection naturelle comme quelque chose de bénéfique pour arriver à survivre le mieux possible. On sait, pour vous donner un exemple, que la plupart, il existe encore ce qu'on appelle les animaux solitaires, ils ne sont jamais complètement solitaires, puisqu'ils doivent se produire déjà, et qu'il y a la question des petits dont il faut s'occuper, mais il y en a qui s'en occupent très peu. Hein, les tortues de mer ne s'occupent pas de leurs petits, elles sont bons avant qu'ils naissent. Quel bonheur. Donc les mammifères ne peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Et donc, je me suis perdu moi-même. voilà. Donc, dans l'histoire des espèces, en fait, on voit apparaître la nécessité, notamment pour se protéger. On se met en commun pour se protéger. Alors, se protéger de choses très différentes. Se protéger du froid. Pensez à la banquise. Le côté grégaire des manchots, c'est juste une technique tout à fait rationnelle qui a fait ses preuves, c'est qu'on gagne en chaleur en se mettant tous les uns à côté des autres. Si on arrêtait les chauffages, peut-être qu'on ferait comme les manchots. Hein.
Ouais,
enfin, avec le réchauffement climatique, ça ne marchera pas. Donc, bref, mais pour vous dire que voilà, ça peut être la chaleur ou le froid qui pose problème. On se met en commun pour résoudre des problèmes. Ça peut être aussi des questions de protection par rapport à des prédateurs. Pourquoi les abeilles se sont organisées aussi bien, ce qu'on appelle le socialité, c'est très fascinant, hein, le monde des abeilles, des termites, des fourmis, c'est des insectes qui sont eux sociaux. Je n'aurai pas le temps de dire exactement ce que ça veut dire, mais ils sont très organisés socialement, avec une division du travail, avec une organisation incroyable, et avec, en fait, un travail pour protéger un nid. Une fourmilière, une termitière, une ruche, etc. Et c'est la nécessité de faire face à des prédateurs de plus en plus nombreux, notamment des parasites, pour tous ces insectes, qui les a conduits à s'organiser comme ça. C'est une réponse adaptative à une situation. Donc on voit bien que le social apparaît, je pourrais donner plein d'autres critères, mais l'apparition aussi de la partition sexuée. Le vivant n'a pas toujours eu une partition sexuelle. Elle arrive assez tardivement. Les bactéries, elles se répliquent. Elles n'ont pas besoin. Si, alors il y a des bactéries qui ont des rapports avec d'autres bactéries. Mais elles doivent avoir des relations avec d'autres bactéries pour se répliquer. Mais vous avez des réplications sans il n'y a pas de partition sexuelle. Et quand il y a partition sexuelle, ça ne veut pas dire qu'il y a copulation et qu'il y a plein de variations là-dedans. Mais à partir du moment où il y a de la partition sexuelle, vous êtes obligé de dealer avec l'autre sexe. Et vous voyez toutes les parades chez les oiseaux, chez les mammifères, etc., pour approcher la femelle ou le mâle. La plupart du temps, c'est le mâle qui fait le beau et qui est sélectionné par la femelle, qui prend celui qui est le plus beau, celui qui a fait le plus, qui a les plus belles plumes, qui, etc. Et c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. C'est ce que Darwin a appelé la sélection sexuelle dans son deuxième gros bouquin, La filiation de l'homme. Il parle de la théorie de la sélection sexuelle. Bref, tous ces éléments, vous voyez, où il y a de la biologie qui évolue, et en même temps avec des conséquences sociales immédiates, ça peut se faire avec très peu de culture. Je dis très peu parce que, en fait, voilà, Danchin, par exemple, dont je parlais, qui est biologiste, il a travaillé sur les drosophiles. Drosophiles, c'est un tout petit cerveau avec pas un grand nombre de neurones par rapport à nous. Là, ils se transmettent culturellement de l'information. Donc la transmission culturelle, même à bas bruit, très très faible, elle existe dans très nombreux taxons du vivant. Mais donc, il y a de la structure sociale dans de très très nombreuses espèces. On peut même considérer que les bactéries qui créent un biofilm, quand elles sont suffisamment nombreuses pour mieux se nourrir et se protéger des prédateurs, c'est un début de vie collective. Et il y a des chercheurs spécialistes de ça qui parlent de vie sociale, des bactéries. Bon. Donc, il y a de la vie sociale, indépendamment de la vie culturelle. C'est très important. Parce que après vous avez de la vie culturelle, et plus vous allez...
Je veux dire que le culturel se déploie pour le social.
Ben voilà, il y a une base sociale qui est liée à des propriétés biologiques, on va peut-être déployer un peu le raisonnement, mais en tout cas, pour le moment, ce que je peux dire, voilà, il y a des structures sociales dans plein d'espèces qui ne sont pas formidablement culturelles, qui ont toujours un peu d'apprentissage et de transmission, mais pas autant que nous. Et puis après, sur cette base-là, il y a en plus une autre invention qui, là aussi, est sélectionnée par l'évolution. Hein. Dans l'évolution, vous avez une sélection de capacités culturelles. Et ces capacités culturelles, vous les voyez monter dans certaines lignées. Alors, chez les oiseaux, vous avez des tonnes de trucs, vous pouvez taper sur YouTube et vous tapez sur les corbeaux et tout ça, vous voyez l'inventivité des corbeaux. Alors, comme par hasard, ils ont un gros cerveau. Et avec une sorte d'équivalent du cortex préfrontal, qui est le lieu de gestion, en fait, consciente, on va dire, d'un certain nombre de problèmes, et ça a augmenté. Une encéphalisation. Et chez les mammifères aussi. Et vous avez une encéphalisation, c'est une augmentation du cerveau chez les mammifères. Plus on va vers les mammifères dits supérieurs, les primates, et nous sommes les champions de l'encéphalisation. Donc avec des capacités d'apprentissage beaucoup plus grandes que plein d'autres espèces. Mais donc nous, on a rajouté à des éléments de structure sociale des structures culturelles qui se rajoutent à ça, et qui s'entourent autour de ça. C'est comme une barbe à papa. Il y a une structure de départ, il y a un bâton, et ça tourne autour. Sauf que là, il faut imaginer plusieurs bâtons. Parce qu'il y a plusieurs choses qui jouent pour constituer une société. Et la protection à l'égard de l'extérieur, est-ce qu'on a des stratégies collectives pour se nourrir? Est-ce qu'on a des stratégies collectives pour s'occuper des petits? Regardez les abeilles. Toutes les ouvrières s'occupent de la progéniture. C'est que des frères et sœurs. C'est que des sœurs, en fait. Parce que les mâles sont tués ou exclus très rapidement. Un monde rêvé. Les abeilles ont réglé le problème, il n'y a plus de mal. Après, il y en a quelques-uns quand même, si vous voulez arriver à se reproduire, mais quand ils se reproduisent, ils meurent après l'acte. Et ceux qui restent sont tués ou exclus. Donc, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais ce n'est pas très bien. Voilà. Donc, il y a ces deux éléments qui sont structurants, et c'est ça qui nous complique les choses. Si on n'a pas une vision. Une comparaison interespèce, on mélange tout, on mélange des choses qui relèvent de structures sociales et des choses qui relèvent de variations culturelles autour de ces structures. Voilà, ça peut être un peu abstrait, mais on donnera sans doute des exemples.
Oui, on va donner des exemples, c'est sûr. Et même, on va essayer d'entériner un peu cette distinction-là entre sociale et culturelle parce qu'elle est vraiment cruciale pour comprendre la suite. Donc, je vais vous lire deux extraits qui sont à mon sens particulièrement bien. Donc, tu dis Bernard, sociologue, anthropologue et historien font comme si tout, donc en tout cas l'essentiel de ce qui les intéresse, le pouvoir ou la domination, les rapports de parenté, l'évitement d'inceste, la communication, les artefacts, etc., commençaient avec l'homme. Ils ignorent le fait que nombre de propriétés sociales, structurelles, comportementales ou cognitives ont précédé de loin l'apparition d'Homo sapiens. Et en fondant tout leur travail sur cette ignorance, ils peuvent attribuer à la culture et à l'histoire ce qui appartient au domaine bien plus étendu du social, la vie sociale ne se réduisant pas à la vie sociale humaine. Les yeux rivés sur les différences internes à l'espèce et aux sociétés humaines, les sciences sociales reposent en général sur une prémisse erronée d'exceptionnalité ou d'unicité radicale de l'espèce et de la condition humaine. Certes, personne ne nie formellement que l'homme est un animal, mais il est vu implicitement ou explicitement comme une espèce totalement à part. Or, vu à partir de la biologie évolutive, l'homme est certes unique, comme toute autre espèce animale, mais il s'inscrit dans un long processus évolutif qui ne le fait pas sortir du néant, et qui ne fait pas de ses propriétés les plus marquantes, qu'il s'agisse de la culture, de la conscience, du langage, de l'outil, des caractéristiques sans précédent dans le vivant. Là, la phrase importante, quand même, c'est « Les sciences sociales reposent en général sur une prémisse erronée d'exceptionnalité ou d'unicité radicale de l'espèce humaine. »
Les podcasts Sciences humaines de Radio qui pique. Rencontres, conférences, débats, tables rondes, entretiens, les problématiques de société avec les chercheurs, eux, invités en Ariège.
Même si les chercheurs en sciences sociales se vivent souvent comme des matérialistes, ils manifestent dans les faits une attitude profondément théologique. En acceptant l'idée que tout chez l'animal est biologique et que tout chez l'homme est culturel, ils font comme si, avec les êtres humains, avec les humains, tout recommençait à zéro en matière de vie sociale sur des bases strictement culturelles qui n'ont aucun antécédent dans l'histoire des sociétés animales. Tout se passe comme si l'homme était sorti de nulle part et que si l'on a éliminé la figure du grand créateur, on l'a toutefois remplacée par celle de l'homme créateur culturel intégral dans l'ensemble des mécanismes sociaux. Donc bon, c'est des phrases bien écrites, ça aussi, il y a aussi des chercheurs et des chercheuses qui boudent un peu, parce que en fait, là, le geste de Bernard, c'est aussi vraiment de réinscrire dans le vivant l'espèce humaine. Donc il y a quand même beaucoup de chercheurs, de chercheuses qui s'inscrivent dans les sciences humaines et sociales, dans des sensibilités politiques plutôt de gauche, des sensibilités politiques dites aussi décoloniales, qui ne l'ont pas forcément vu et qui ont été un peu vexés, paraît-il. Mais bon, on peut avancer. Donc, du coup, si le social n'est pas le monopole de notre espèce, tu l'as dit, donc ça devient pertinent, important, nécessaire de mobiliser la comparaison interspécifique. On en est là, tu vas voir dès que c'est possible au niveau du végétal, au niveau d'espèces animales non humaines. Au niveau des mammifères, au niveau des primates, donc il y a cette espèce de double mouvement d'élargissement puis de resserrement à nouveau. Et du coup, ça nous amène à donner peut-être un exemple.
Ah ben, les exemples ont été donnés, alors peut-être un peu rapidement, et je peux revenir dessus. Moi, une des choses sur lesquelles je suis tombé au départ et qui m'a le plus branlé, parce que c'était une sorte d'évidence pour les sciences humaines et sociales pendant très très longtemps, c'est l'évitement de l'inceste comme spécifique à l'humain. Freud dit ça, Lévi-Strauss dit que c'est constitutif de l'humanité, et il écrit ça dans les structures élémentaires de la parenté dans les années 50. L'éthologie en est à ses débuts, notamment la primatologie, et des gens commencent à découvrir qu'en fait, les primates, les grands singes, évitent l'inceste. C'est assez facile à voir, vous voyez chez les chimpanzés. Alors, à la différence de plein d'autres singes, d'ailleurs, les garçons restent avec leur maman. Et les filles partent, femelles, partent dans d'autres groupes pour se reproduire. Donc, il y a... Voilà. On évite le plus possible l'inceste. Et on pourrait dire, oui, les petits... le mâle reste avec leur maman, donc il y a toujours une possibilité d'inceste. Bah, non. On observe et on voit qu'on ne couche pas, à la différence de ce qu'écrivait Lévi-Strauss, il disait il n'y a pas de règle. Les animaux sont débridés du point de vue sexuel, il n'y a pas de règle, tout le monde peut avoir des rapports sexuels avec tout le monde. C'est totalement faux. On a commencé à voir ça sur les primates, on a vu que ça marchait chez de nombreux mammifères, aujourd'hui on est persuadé que c'est l'ensemble des mammifères, mais regardez les insectes, c'est la même chose. Les abeilles vont se reproduire avec ce qu'on appelle les faux bourdons qui sont issus d'autres colonies. Donc, l'évitement de l'inceste est un principe d'organisation sociale qui est très avantageux du point de vue biologique, qui a été pensé par personne. Hein. Il n'y a aucune abeille qui s'est dit « Ouais, ce serait quand même mieux parce que tu as vu la tête des enfants, c'est pas possible, on va essayer de se diversifier un peu. » Non. Ça marche mieux, c'est ça l'évolution. Il n'y a pas besoin d'un décideur, de quelqu'un qui dit « Bon, voilà, c'est comme ça. » Ça se fait petit à petit parce que c'est mieux pour le groupe. Parce que ça s'impose comme une solution beaucoup plus... De même que la partition sexuée a été un avantage considérable, parce que ça fait une variabilité plus grande. Quand vous dupliquez seulement, il y a même des mammifères qui peuvent avoir de la parthénogenèse. Hein, donc les femelles n'ont pas besoin de mâles pour reproduire. Mais le problème, c'est qu'il y a zéro diversité. C'est-à-dire vous clonez. C'est du clonage. Donc, le petit... à toutes les propriétés génétiques de la mère. Dès lors que vous introduisez la partition sexuelle, vous avez un brassage. Vous avez que la moitié du patrimoine de papa et la moitié du patrimoine de maman. Et ça, c'est un avantage incroyable du point de vue biologique. Bon. Donc je suis en train de perdre. Voilà. Donc, l'évitement de l'inceste qui structure les sociétés animal dans tous les taxons du vivant, c'est pas l'humain, c'est pas l'homme qui a inventé ça. Ou alors, il faut faire une hypothèse, parce qu'il y a des gens qui disent ça j'adore cet argument, donc je vous le dis, des gens qui disent oui, mais enfin ça n'a rien à voir, le tabou de l'inceste et l'évitement de l'inceste. Ah oui, nous on a les mots pour le dire. Alors ceci dit, nous avons les mots pour le dire, pour formuler les règles, etc. Bon, qui a entendu parler quand il était petit de « ça se fait pas de, », depuis qu'il y a des affaires, oui, je pense qu'il y a des petits qui savent. Mais moi, j'ai jamais entendu qu'il fallait pas coucher avec sa sœur, avec sa mère, avec son père, etc. Et pourtant, ça a marché très bien. Personne ne m'a touché. J'ai pas été attiré par ma sœur, etc. Ça fonctionne ordinairement très bien, sans avoir besoin d'une loi. Moi, j'ai même découvert le tabou de l'inceste très tardivement à l'université, en lisant les Lévi-Strauss. Donc, on ne va pas renverser les choses. Voilà. Donc, nous avons des formulations, nous avons un langage que d'autres n'ont pas, avec des capacités symboliques, etc., que d'autres espèces n'ont pas, mais ça ne fait pas une différence radicale entre eux, on va dire, et nous. D'autres espèces animales, non humaines, et nous. Donc voilà, évitement de l'inceste. Mais vous avez, tu as cité les différents éléments. Au début, enfin, vous avez plein de paléoanthropologues ou préhistoriens qui ont dit c'est l'outil qui fait l'humain, etc. Bon, c'est tombé. On voit l'usage d'outils dans de très très nombreuses espèces animales. Après, on a essayé de moduler en disant « Oui, mais nous, on produit des outils, eux, ils vont que chercher des choses qui sont déjà là. » C'est faux. Et on a vu comment les corbeaux prennent des choses, arriver à plier une tige en métal pour arriver à faire un crochet et attraper quelque chose qui intéresse pour manger et qui n'arrive pas à avoir avec leurs pattes ou leurs becs. Etc. On sait chez les chimpanzés qu'ils utilisent des brindilles pour aller chercher ce qu'ils adorent, des fourmis. Hein, c'est délicieux. Pour rentrer le bâton, enfin la petite brindille, mais qui mâchouille au départ pour faire une sorte de comme un petit balai. Qui ramène plus de fourmis. C'est très intéressant. Donc ils font ça. Puis récemment, là, une primatologue qui a montré les pratiques d'automédication des chimpanzés qui prennent des écorces d'arbres et qui mâchouillent ça pendant des heures et des heures. Et comme c'est une primatologue et vétérinaire, elle fait aussi une analyse très sérieuse des propriétés de l'écorce. Et elle étudie en prenant les excréments des chimpanzés, elle voit le parasite. Elle analyse chimiquement ce que c'est que cette écorce et elle voit que, ben, ils ont trouvé le bon truc, antiparasite. Voilà. Donc, les outils, le savoir, l'évitement de l'inceste, le langage, on en est au début, mais on sait qu'il y a des moyens de communication dans toutes les espèces vivantes. Toutes. C'est même extrêmement complexe. C'est-à-dire, vous prenez une fourmilière, vous avez à la fois des phéromones, des molécules chimiques qui ne sont pas des phéromones. Alors, tout le monde se repère comme ça. Laisse des traces pour indiquer l'endroit où il faut aller chercher la nourriture. Vous avez un usage de la vibration pour se rapprocher de l'autre et communiquer directement. Il y a des choses tactiles aussi avec les antennes. Etc. Vous voyez, c'est multimodal et extrêmement complexe. Les abeilles, la même chose. Bon, ça, c'est un grand classique, ils font des sortes de danses, etc. Et là, propriété très importante, c'est qu'on dit, nous, on est des champions, on fait dans le symbolique. C'est-à-dire, le symbolique, c'est la capacité à parler de choses qui n'existent pas, là, dans la situation présente. Là, c'est-à-dire qu'on est capable de dire... voilà, je viens d'un tel endroit et j'ai fait ça. Ça n'est pas là présent, on peut dire ce qui s'est passé avant. On peut dire aussi ce qui va se passer après. Et il faudrait qu'on aille chasser ensemble tel animal, on peut s'organiser, etc. Et on peut même inventer des choses, je ne veux pas choquer qui compte ici, mais on peut inventer des forces spirituelles, des esprits de la nature, des esprits des ancêtres, des divinités, des dieux, etc. Et ça, d'ailleurs, qui contraignent beaucoup la vie en société, mais c'est quand même les humains qui les ont formulés. C'est grâce au langage. Donc le langage nous a mis sur une voie très particulière. Sauf que les abeilles, elles aussi, elles font dans le symbolique. Il y a des abeilles qui vont repérer l'endroit où il y a des fleurs intéressantes à manger. Elles reviennent et elles communiquent. Elles communiquent sur quelque chose qui n'est pas là. Et elles indiquent la direction en fonction du soleil, de la position du soleil, la direction et en fonction de la fréquence de la danse, la distance qui sépare la ruche. Et toutes les ruches n'ont pas le même langage. Ce qui fait que quand expérimentalement vous réunissez deux ruches, eh ben, y a certaines abeilles qui font des danses, les autres vont chercher et disent bon, y a rien. Donc je ne sais pas comment elle règle ça techniquement, mais en tout cas, parce qu'il faut savoir que la plupart des abeilles vivent quelques semaines, quelques mois maximum au niveau des ouvrières. Et en quelques semaines, parfois en une semaine, des abeilles différentes arrivent à se mettre d'accord. Je ne sais pas, là, on ne sait pas comment ça fonctionne pour le moment. Mais voilà. Donc, vous voyez, plus on avance dans l'étude des animaux, plus on voit que, oui, on a des spécificités, mais on ne sort pas comme ça de n'importe quoi, de n'importe où. Et donc, il faut être un peu plus modeste déjà, et puis se dire que c'est intéressant de voir que. Il y a des choses qu'on peut mieux comprendre de ce que nous sommes en observant aussi des espèces différentes de nous.
Oui, il faut qu'on avance un petit peu parce que je veux quand même qu'on parle un peu d'atricialité, selon vous.
Oui.
et du coup, alors, oui, ce geste théorique, enfin, c'est pas ça, ça a des applications tout de suite, mais de replacer, de réinscrire. Nos sociétés, les sociétés humaines dans une plus grande analyse, une analyse plus globale du vivant, ça vient aussi un peu contrarier, un peu heurter en fait cette approche, cette vision qui est assez à la mode quand même, ou en tout cas c'est certaines thèses d'anthropologie qui disent qu'en fait l'évolution des sociétés humaines est complètement contingente, complètement imprévisible, aléatoire, comme un rhizome, ça part dans toutes les directions, c'est complètement vagabond, c'est chaotique, j'aime bien ces adjectifs-là. Toi, tu dis non, en réalité, il y a quand même une espèce de limitation des possibles, donc il y a des contraintes qui s'appliquent, et en fait, tu dis non seulement il n'y a pas mille solutions comme pourrait le laisser entendre une vision non déterministe de l'évolution, mais tout laisse à penser qu'il existe une petite poignée de solutions et parfois même une solution unique et optimale. Ça, c'est parce qu'il y a aussi de la contrainte qui est là de la contrainte qu'on peut contourner des fois c'est plus difficile, et du coup je voudrais qu'on revienne à parler de ces contraintes, parce que c'est une thèse importante de ton livre.
Les podcasts Sciences Humaines de Radio qui pique. Rencontres, conférences, débats, tables rondes, entretiens, les problématiques de société avec les chercheurs, eux, invités en Ariège.
Est-ce que tu peux nous dire, Bernard, quelle est selon toi un peu la méga contrainte, la contrainte un peu centrale qui s'applique à notre espèce ?
Alors oui, alors je vais juste revenir sur un point, parce que c'est très important. Pour arriver à comprendre que le monde social ne va, et l'histoire des sociétés humaines n'est pas aussi libre que ça, et partait dans tous les sens, et d'un foisonnement infini, etc. Il y a un truc radical, mais que les sociologues ne font pas, les anthropologues de moins en moins, et les historiens enfermés souvent dans des périodes particulières ne font pas non plus. Mais que les préhistoriens, les archéologues, etc., ont noté depuis très longtemps, c'est des phénomènes de convergence culturelle. C'est-à-dire que, très concrètement, si tout était libre, on ne comprendrait pas pourquoi il y a eu cette convergence. Alors, je vais vous donner des exemples très très simples. L'agriculture. L'agriculture apparaît dans des sociétés sans contact. Je ne sais plus combien de fois, si c'est 15 fois ou 8 fois, je n'ai plus les chiffres, mais vous avez la solution agricole qui est inventée par des sociétés, encore une fois, qui ne sont pas en contact, comme une réponse à un problème. Et généralement, à plusieurs problèmes. Enfin, je ne vais pas traiter de ça. De la même façon pour l'État. On a X apparitions du phénomène étatique dans des sociétés qui sont sans contact les unes avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effet du contact culturel, ce qu'on appelle le diffusionnisme. Oui, si vous arrivez, État colonial qui arrive en Afrique et qui prend une société guinéagère, vous faites tout ça avec un État et voilà, vous imposez la forme étatique. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est l'apparition de l'État, c'est-à-dire génération spontanée. C'est jamais la génération spontanée, il y a toujours des rapports avec des sociétés autour, etc. Mais, encore une fois, il y a des grands blocs civilisationnels qui ont inventé l'État séparément les uns des autres. Et c'est valable pour l'écriture, c'est valable pour des modes d'habitat, pour des outils. C'est-à-dire la hache, alors il y a un grand anthropologue je ne me rappelle plus de sa date de naissance, ça doit être au 19e siècle, et il avait plus jusqu'au début du 20e siècle, c'est Alexandre Goldenweiser. Lui, il faisait des collections de types de haches, par exemple, ou des types de massues, ou des types de canons, etc., dans des sociétés extrêmement différentes. Et il montrait, quand on veut aller sur l'eau, à un ou deux, ça se termine toujours à peu près de la même façon. Alors, vous avez toujours quelqu'un qui va dire « Oui, mais là, vous voyez, ils mettent des décorations qui ne sont pas les mêmes, qui montrent qu'ils ne sont pas les mêmes. » Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est tout le temps comme ça. Et on peut dire que un couteau, par exemple, entre l'aïeul et puis l'opinel, et puis... je ne veux pas faire la lutte. Il y a des différences. N'empêche que le principe du couteau a été inventé par des civilisations, par des sociétés extrêmement différentes. La roue, c'est la même chose. La roue a même été inventée en premier lieu chez les Mexicains, qui n'en ont fait que des jouets pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que ça pouvait leur servir pour d'autres choses. C'est beaucoup plus tard que ça arrive. Mais la roue, le principe de la roue, un truc qui tourne autour d'un essieu, ça a été inventé par des peuples différents, des sociétés différentes. Les pyramides, donc c'est rempli de convergences culturelles. Alors, vous comprenez bien que quand vous êtes sociologue, aujourd'hui, je prends ma propre discipline d'origine, quand vous êtes sociologue, de l'enfance, ou de l'école, ou de l'art, ou je ne sais pas quoi, au 20e, 21e siècle, vous n'avez aucune chance de saisir ces choses-là, puisque vous êtes sur du petit, vous êtes enfermé sur le présent, sur une petite partie du présent, et vous voyez plus grand. plus c'est grand chose. Il faut repartir avec des archéologues, des préhistoriens, etc., pour voir qu'en fait, non, le monde ne part pas dans tous les sens. Et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça les principes de convergence culturelle. Et il y a des convergences aussi de nature sociale, donc la différence culturelle sociale que j'évoquais tout à l'heure, et des convergences biologiques. Dans le vivant, c'est la même chose. Bon, le grand exemple, c'est les plantes type cactus. Vous en avez une en Afrique et une côté Amérique du Sud, on va dire Mexique. Et vous voyez qu'elles ont, elles n'ont pas du tout d'ancêtres communs immédiats qui avaient les mêmes propriétés, et elles ont inventé exactement la même solution. Devant le même problème, il y a très peu d'eau, il y a beaucoup de chaleur, il faut préserver le peu d'humidité qu'on peut attraper, etc. Là, vous avez exactement les mêmes structures anatomiques qui se mettent en place. Bon, donc tout ça pour dire que les gens qui disent que notre liberté est infinie, etc., ben non. Voilà, ça peut déplaire, on peut dire oui, mais enfin, politiquement, c'est pas terrible et tout. Oui, mais si c'est vrai, il va falloir l'accepter. Et partir de là pour se dire comment on peut changer les choses, sachant qu'il y a plein de choses qui nous obligent, qui s'imposent à nous, indépendamment de notre petite volonté, et voilà, qui nous contraignent. Et d'ailleurs, j'ai un collègue biologiste qui m'a dit « Mais je ne comprends pas que les sociologues ne pensent pas qu'il y a des contraintes. Nous, il n'y a que des contraintes. On voit que les contraintes qui agissent sur le vivant. » Mais vous voyez, il y a quelque chose de théologique. C'est-à-dire que dès qu'on touche à l'humain, « Non, l'humain est libre, l'humain a une pensée. » Imaginez la puissance de notre conscience, tout ça. Alors qu'on ne comprend rien à rien. Et au début, après, comprendre le monde dans lequel on est, au moment où on est en train de à peu près tout détruire. Donc, on est un peu dans un TGV à 300 km/h en se disant il faudrait freiner, mais on n'y arrive pas, je ne sais pas comment freiner. Donc, un peu de modestie, peut-être ça nous sauvera. Et donc, il y a des propriétés biologiques qui sont extrêmement contraignantes. J'en ai cité une tout à l'heure, c'est la partition sexuelle. Il y a une remarque d'ailleurs très intéressante d'un grand biologiste, professeur au Collège de France, François Jacob, qui a écrit La logique du vivant. Dans La logique du vivant, il dit un truc formidable, et c'est bien que ce soit un biologiste qui le dise, parce qu'il y a des gens qui ont récané un certain nombre d'exemples que j'ai donnés au début qui sont du même type que François Jacob. Donc, si je me mets du côté de François Jacob, moi ça me va bien. C'est sur l'histoire de. Vous changez une propriété biologique et vous voyez ce que ça donne socialement. Ben, sans partition sexuée, ça change pas grand-chose. Et François Jacob dit, mais en fait, c'était pas, c'est une solution du vivant, mais le vivant aurait très bien trouvé une solution où se reproduire suppose d'être à trois et pas à deux. Là, vous avez des gamètes mâles, des gamètes femelles pour produire. Le vivant aurait pu trouver une solution à trois. Et François Jacob dit ce truc extraordinaire, il dit bah, les sociétés ne seraient pas du tout les mêmes. Parce que s'il faut s'y mettre à trois, c'est pas la même, c'est pas le même dit. Quoi. Donc, il faut penser en termes de propriété. Rien en fait, je se mettre à trois. Mais en tout cas, pour faire un petit, il n'y a pas besoin. Donc si on regarde les propriétés biologiques, bah, parmi ces propriétés biologiques, je vais en citer deux. La première est un peu bizarre comme ça énoncée, mais elle est très simple à comprendre. C'est ce qu'on appelle l'altricialité secondaire, je vais y revenir, et puis la longévité. Alors je dis deux mots sur la longévité, c'est plus facile à comprendre. En fait, vous voyez, il y a des espérances de vie selon les espèces très très différentes. Un éphémère, ça vit, ça se reproduit, ça meurt en quelques jours, à peine. Vous avez des insectes qui durent une semaine. C'est vrai que quand vous écrasez une mouche, en fait, vous ne causez pas un tort. Enfin bon, elle ne reste pas en vie très très longtemps, je blague. Et puis, vous avez, plus on va vers des gros animaux, généralement, la longévité va avec, la grande longévité, va avec le fait d'être un peu plus gros. Ça dure plus longtemps. Alors, les éléphants, on sait, 100 ans,
les cachalots,
les dauphins. Pour moi, 3 ans, donc il ne faut pas. Bon, on va voir. Donc, des mammifères qui restent très longtemps en vie. Alors, ça dépend évidemment des prédateurs qui les entourent, etc. Mais plus vous êtes un gros mammifère, par exemple, les éléphants, ils ont très peu de prédateurs. Les baleines ont très peu de prédateurs. Parce que pour arriver à attaquer un gros truc comme ça, il faut s'y mettre à plusieurs, c'est compliqué. Voilà. Donc, longévité d'un certain nombre d'animaux, mais ça crée, ça a des effets en termes culturels et du coup de structuration sociale aussi, parce que quand vous combinez ça avec des capacités d'apprentissage, vous avez des animaux qui sont capables d'apprendre très longtemps. C'est-à-dire une matriarche éléphant, elle a 100 ans d'expérience. Quand vous retirez une matriarche, alors ça a été fait de très mauvaise manière, dans certains cas pour avec des bonnes intentions, des fois c'était pour soigner l'animal, on l'a retiré du groupe, ou on l'a mis dans un autre groupe, etc., en pensant, évidemment, c'est très anthropocentré, que de toute façon les animaux ne font pas de différence. Hein, donc vous mélangez tout, vous enlevez une matriarche, etc., ben, le groupe ne survit pas. Alors pourquoi ? Ben parce que la matriarche, elle sait où aller boire, où aller manger quand il n'y a plus rien sur place. Et si elle, s'il n'y a rien à tel endroit, elle sait, elle a une carte mentale incroyable. Donc elle a un savoir assez incroyable, accumulé ben sur une certaine année, pour le groupe. Ce qui est un avantage considérable pour le groupe, pour la survie du groupe. Bon, alors quand vous regardez les humains, ben vous avez une capacité d'apprentissage avec une encéphalisation qui est particulièrement grande, plus grande encore que celle de l'éléphant. On vit assez longuement, c'est pas 100 ans en moyenne, hein, ça c'est sûr. Et pendant longtemps, on a eu tellement de prédateurs et de mauvaises conditions de vie, etc., qu'on pouvait mourir très tôt. Méfiez-vous des chiffres quand vous les voyez d'espérance de vie à la naissance, parce qu'évidemment, le gros des troupes mourait à la naissance. Le gros problème de l'humanité, ce sera sur l'aspect actrice, c'est que les femmes mouraient en couche et les petits mouraient. Ça, c'est le taux de mortalité infantile au paléolithique supérieur, on a l'impression que c'était une boucherie. Parce que c'est extrêmement difficile à coucher chez les humains. Plein de problèmes techniques. Le petit doit tourner, il peut évidemment avoir le cordon qui l'étouffe, il a une grosse tête et il faut sortir d'un corps qui n'est pas forcément toujours assez gros. On a inventé la césarienne très très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Ça fait 300 000 ans qu'il y a Homo sapiens, la césarienne, je n'ai pas la date, mais enfin, c'est très très récent. Donc, on a eu ce problème-là. Mais grosso modo, quand les gens arrivent à passer ce cap-là, les humains ont une longue durée de vie. Longue durée de vie, ça veut dire à la fois longue expérience au niveau individuel, mais aussi 3 générations peuvent vivre ensemble et se transmettre énormément d'informations. Donc, quand vous avez des capacités culturelles décuplées par le langage, etc., ça je ne peux pas y revenir, ce serait trop long, vous avez une sorte d'accélération culturelle qui se joue. Donc, la simple propriété de longévité de l'espèce humaine, combinée avec les autres propriétés, nous a fait décoller. Alors, il ne faut pas faire les fiers, hein, pendant des dizaines de milliers d'années, les gens ont payé des bifaces. Hein, ce n'était pas non plus... On n'est pas passé au téléphone portable immédiatement. Hein. C'était une évolution à bas bruit. À l'heure actuelle, vous avez des chimpanzés qui sélectionnent dans la nature des pierres plates, d'autres pierres qui permettent de faire marteau et ils cassent des noix. Alors il y a des gens qui rigolent, ils disent oh, oui, bon, d'accord, c'est pas énorme. Hein. Oui, nous, c'était pas énorme hein, pendant très longtemps. Et d'ailleurs, les préhistoriens qui sont spécialistes de la culture lithique, des pierres, disent, ça bouge pas, sur de très, très longtemps, ça ne bouge quasiment pas. C'est presque le même style de casse des pierres pour arriver à avoir des choses pour trancher, des choses pour racler, etc.